Comment dire et des nouvelles?
Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Elsa Olaizola.
Bonjour, bonsoir. Une émission spéciale enregistrée en Guinée à l'occasion des 72 heures du livre ici à Conakry. C'est la 11e édition et l'équipe de VMDN a planté son studio au Centre culturel franco-guinéen. Merci à son directeur Nicolas Doyard, à Stéphane Kefing-Kaba et à leurs équipes de nous avoir si bien accueillis. Ça mérite, je crois, quelques applaudissements. Merci justement au public qui s'est joint à nous pour cette première émission spéciale, notamment tous les jeunes qui sont dans la salle et on sait combien le livre est important pour eux et pour leur avenir. Pendant 3 jours ici en Guinée, on va donc parler du livre, de littérature, de poésie, d'édition, mais aussi de photographie, de cinéma, d'art plastique à l'occasion de ce rendez-vous annuel porté par notre hôte Sansi Kabadiakité. Bonjour, directeur des éditions L'Armate en Guinée, organisateur en 2017 de Conakry, capitale mondiale du livre sous l'égide de l'UNESCO et infatigable promoteur du projet Conakry, capitale africaine du livre. On va en parler dans un instant. À ses côtés, la photographe voyageuse et chercheuse, c'est ainsi qu'elle se présente, Isabelle Daviedade. Bonjour.
Bonjour.
Le journaliste et écrivain Jean-Célestin Edjangé. Bonjour.
Bonjour Jean-François.
Et Binta Anne, écrivaine, présidente de la FONBAL, la fondation Binta Anne pour les enfants et les femmes. Les 72 heures du livre, c'est jusqu'à vendredi et vous m'en direz des nouvelles.
VMDN est en Guinée-Conakry.
Alors Sansi Kabadiakité, on va commencer avec vous puisque vous êtes la cheville ouvrière de ce projet Conakry, capitale africaine du livre. Vous êtes aussi l'initiateur, l'organisateur de ces 72 heures du livre. On est dans la 11e édition. Quelle est l'ambition du festival cette année?
L'ambition, c'est de perpétuer ce qui a commencé en 2017, faire de Conakry la capitale africaine du livre. Vous savez, Ouagadougou a pris le cinéma, Bamako à la photo, Dakar à l'art contemporain, Abidjan à la musique et les spectacles, Conakry veut avoir le livre. C'est un projet et une vision du chef de l'État guinéen, du gouvernement, c'est un engagement. Et nous, les professionnels du livre, nous essayons d'accompagner ça, de faire en sorte que ce rêve des populations guinéennes devienne une réalité. Parce que la Guinée, c'est vrai, c'est réellement une terre de culture, une terre de grands écrivains comme Camara Lai, William Sassine, et Alioune Fantouré, mais aussi de Tchernomon Enembo.
Alors le pays invité cette année, c'est le Mali. On vous avait croisé d'ailleurs hein, à Bamako au moment de la rentrée littéraire du Mali. C'était au mois de février dernier. Pourquoi avez-vous souhaité mettre les lettres maliennes à l'honneur cette année?
Mais écoutez, nous avons coutume de dire ici, en Guinée, que le Mali et la Guinée, c'est deux poumons dans un même corps. Nous avons invité la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina. Il restait tout près de nous, cette République sœur. On a voulu rendre hommage au Mali parce que la thématique de cette année, c'est lié aux images, c'est la photographie. Et le Mali est très célèbre par sa biennale des photos. Le Mali, c'est le pays de la lumière, le soleil. C'est aussi ça, les images. Malick Sidibé, Seydou Keita, Seydou Camara et tant d'autres professionnels d'image, on leur expose ici aujourd'hui à Conakry pour dire aux Guinéens que le Mali est bienvenu et que le livre et images peuvent se mettre ensemble pour faire de grandes choses.
Alors vous, Isabelle Daviedade, vous êtes à la fois une femme de mots et une femme d'image, puisque vous êtes photographe et auteur. Alors, je ne sais pas si j'ai bien révisé, vous êtes française par votre mère martiniquaise, c'est ça, votre père est ivoiro-béninois, j'ai bon. J'ai lu aussi que vous avez un arrière-grand-père chinois, et il se trouve que votre nom sonne plutôt brésilien. Hein, on est d'accord, donc vous êtes une citoyenne du monde, quoi.
Je m'autorise un certain nombre de choses dans un certain nombre d'endroits.
Voilà, vous êtes une chercheuse voyageuse, une voyageuse chercheuse, photographe. Qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous cherchez dans vos voyages?
Alors il se trouve que, comme vous l'avez dit, mon point de départ, ce sont mes parents, qui sont des gens qui, à un moment, ont décidé de passer d'un point A à un point B. Et donc ça déjà pour moi c'est une question, c'est à la fois plusieurs cultures et c'est de la curiosité. Et ce que je recherche c'est des rencontres, c'est de la diversité et je pense que j'ai été élevée dans une famille où le fait qu'il y ait plusieurs cultures comme vous l'avez évoqué m'a donné très jeune envie de prendre mon sac et d'aller découvrir ce qui se passe ailleurs, et ce que j'ai découvert est juste incroyable.
Mais alors justement, nous sommes ici en Guinée, à Conakry. Qu'est-ce que vous avez trouvé en Guinée?
J'ai fait la connaissance de la Guinée en 2002, donc il y a maintenant 17 ans. Et alors pour moi, c'est avant tout un pays d'accueil, un pays de chaleur, un pays de curiosité, et aussi un pays où la culture est vraiment un socle, et l'histoire, et l'envie d'être ensemble, d'avancer ensemble, malgré les difficultés, avec cette capacité de langage, de partage, et où la différence est reconnue comme une valeur. Et ça, pour moi, c'était assez nouveau dans mes différents voyages.
Et Conakry, alors vous l'avez montré, hein, cette ville de Conakry, à travers vos photos, en particulier dans une exposition itinérante Conakry, la Guinéenne. Alors moi, j'ai été frappé par les photos que vous avez envoyées, parce que il y a des détails parfois qui vous intéressent vraiment sur les visages, que vous prenez soit de face, soit de dos, soit de profil. Qu'est-ce que vous recherchez quand vous faites ainsi le portrait de quelqu'un, et singulièrement d'un habitant ou d'une habitante de Conakry?
Alors c'est toujours particulier pour moi, entre ce que je vois et ce que je photographie, et il y a quelque chose de mystérieux, et à la fois je tente de le faire apparaître dans mes photographies avec une dimension esthétique, et je pense aussi que les gens ne regardent pas assez, ne prennent pas le temps, et je m'autorise et je me donne ce temps pour pouvoir à un moment faire apparaître quelque chose qui est de l'ordre du quotidien, mais peut-être que les gens ne voient pas. J'aime cette sensation de lenteur pour faire apparaître quelque chose.
La vérité est dans les détails.
Alors la vérité, c'est un mot très particulier, mais ce que je peux dire, c'est que le détail, pour moi, je lis ce mot avec une notion d'observation et de lenteur.
Observation, lenteur, vous lisez ce mot, venez-vous de nous dire. Et cette capitale, Conakry, vous l'avez fait aussi résonner à travers vos photos, mais aussi à travers vos mots, justement, Isabelle Dapiedat, comme dans ce poème intitulé tout simplement Conakry.
Conakry, tu écris. Conakry, tu lis. Conakry, tu vis. Nimba la féconde. Féconde tes écrits. Hurle au monde que le Kogon inonde. Inflamme ton appendice, divulgatrice, pour que la Guinée, de sa douce tonalité, accueille ses hôtes le jour de la dot, dans un bel hommage écrit sur la page ta belle culture lors d'une danse mandature.
Conakry, tu écris, tu lis, tu vis, avez-vous écrit, Isabelle Dapiedat. Je me tourne vers Jean-Célestin Edjangué, qui a co-dirigé avec vous ce livre, Conakry, cité du livre, paru chez l'Armat en Guinée, autrement dit dans la maison d'édition 206 Kabadiakité. En quoi Conakry est-elle déjà et mérite-t-elle d'être cette cité du livre que vous appelez tous les deux de vos voeux?
206 Kabad l'a dit tout à l'heure, il voudrait se situer dans le prolongement de ce qui a été réalisé en 2017-2018. Moi, je remonterais beaucoup plus en amont encore. Je dirais que il faudrait aller dans la continuité de ce qui a été réalisé avec la toute première édition des 72 heures de livre. Il y a déjà 11 ans quand même. C'est pas rien. C'est pas 11 jours, c'est pas 11 mois. C'est 11 ans.
Une tâche de longue haleine.
Oui, ça veut dire que entre la toute première édition et la 11e que nous célébrons cette année, il y a eu du travail. Et c'est un travail à la fois passionnant, méticuleux, un travail qui demande beaucoup d'énergie, mais aussi, j'allais dire, un travail d'une bande, pas de copains, mais presque d'amis, quoi. On a fini par avoir comme ça la même passion, bien sûr, pour le livre et l'écriture, le même intérêt pour la culture, la même volonté, en quelque sorte, pour aider à ce que l'objet livre soit considéré comme le support de base, en fait, non seulement de la connaissance, mais des rencontres, de la découverte, de l'imagination, et ça fait beaucoup. Et donc, je pense que faire que Conakry, à l'image d'autres capitales, ait ce centre d'intérêt autour du livre, et qu'il soit reconnu comme tel, ce serait que justice, finalement, pour l'Afrique.
Bintan, en quoi ce projet de Conakry capitale africaine du livre est-il important pour les Guinéens et pour les Guinéennes?
Nous commençons déjà à prendre goût Après le succès de Conakry, capitale mondiale du livre, je pense qu'on n'a pas envie de s'arrêter ainsi en chemin. Et les Guinéens s'habituent aux livres, aux événements culturels. Et les 72 heures du livre, exemple, c'est le plus grand événement culturel que nous avons ici. Nous n'avons pas beaucoup d'événements culturels, à part les artistes qui chantent. Et donc c'est important parce que nous commençons à s'approprier de concepts. Et on ne veut pas du tout que ça s'arrête.
Alors, Sansi Kabadiakité, vous-même, si je puis me permettre de parler un petit instant de votre parcours personnel à vous, parce que quand on devient éditeur, quand on crée un festival autour du livre et de la lecture, c'est quand même intéressant de savoir comment vous, vous avez rencontré le livre. Vous avez grandi comme ça, au milieu des livres ?
Oui. Un papa enseignant, un grand frère éditeur libraire. Donc, j'étais à la maison avec des livres. Quand je venais autour de mon frère, il y avait les livres. Au lycée, mon papa a même fait une bibliothèque juste à côté pour qu'on puisse s'épanouir à Cancan, pour ceux qui connaissent ma ville natale. L'aventure avec le livre, c'est extraordinaire parce que je vis de ça, j'aime ça et partout chez moi, il y a le livre.
Mais quel est le premier livre qui vous a harponné, le premier livre dont vous vous êtes dit... Celui-là, c'est le livre de ma vie, en tout cas le premier livre de ma vie.
Le livre qui m'a marqué, c'est vraiment le livre Faralako d'un grand auteur guinéen, Émile Cissé. C'est un livre des années 50. Hein. Quand j'ai touché ce livre, ça a changé ma vie. Ensuite, comme tout Guinéen, L'Enfant Noir. Ensuite, les autres, d'Alume Fantouré, de William Sassine, qui est de la même ville que moi, extraordinaire, et moi je lisais un peu de tout.
Alors vous avez cité quelques grands écrivains guinéens, Kamara Lai, Djibril Tamsir Nian, d'autres encore, William Sassine, on peut aussi peut-être ajouter Tierno Monenambo, qu'on a reçu d'ailleurs quand on était à Bamako dans VMDN. Est-ce que la nouvelle génération d'écrivains est arrivé à maturité? Parce que vous organisez aussi, je crois, le prix du jeune écrivain guinéen. La relève est assurée?
Complètement. Les jeunes qui ont participé au concours du prix du jeune écrivain. C'est la 5e édition. Aujourd'hui, c'est extraordinaire ce qu'ils écrivent. Pendant Ebola, ils ont fait des textes magnifiques. Cette année, c'est sur les 60 ans de la Guinée. L'année dernière, c'était libre. Mais nous recevons des textes que nous essayons de mettre ensemble les lauréats pour faire un recueil. Mais on sent que les jeunes avaient soif d'écriture. Ils ont soif de lecture. C'est pourquoi avec la création des points de lecture dans les quartiers, moi je sais bien que la Guinée est bien partie et que cette relève peut se faire.
Vous m'en direz des nouvelles est à la 11e édition des 72 heures du livre à Conakry.
Et nous sommes toujours en public au Centre culturel franco-guinéen avec nos quatre invités, le directeur de l'Harmattan Guinée, Sansi Kabadiakité, le journaliste et écrivain Jean-Célestin Edjangé et deux femmes très investies en faveur de la lecture, notamment auprès des jeunes, la photographe et voyageuse chercheuse Isabelle Dapiedad et Binta Han, professeure d'anglais au lycée français ici à Conakry et qui a créé la Fondale, la fondation Binta Han pour les femmes et les enfants. Jean-Célestin Edjangé, sur la photo de couverture du livre Conakry, cité du livre que vous avez donc coordonnées, on le disait tout à l'heure, avec Isabelle Dapiedad, on voit des jeunes, justement, on voit même des enfants plongés dans des livres. Le journaliste que vous êtes, donc l'observateur, a constaté réellement un appétit de lire dans la jeunesse de Conakry.
Oui, j'ai peu de temps à en parler que, encore une fois, ça fait au moins 10 ans que je viens à Conakry dans le cadre des 72 heures du livre, et donc j'ai pu constater cette évolution-là. Une anecdote... Je me souviens, il y a encore 7 ans ou 6 ans, quand le président Alpha Condé nous avait reçu tous les écrivains et auteurs à l'issue de l'édition des 72 heures du livre de cette année-là. Sansi Kabadiakité lui disait, mais monsieur le président, vous savez, nous, à Conakry, en Guinée plus largement, nous avons l'ambition de faire de Conakry la capitale mondiale du livre. Le président Alpha Condé, il a esquissé un sourire un peu... Narquois d'ailleurs, en disant mais monsieur Kaba, mais dans un pays où les gens ne savent même pas que dans les bibliothèques il faut pas y mettre les bibelots, les fourchettes et les cuillères, comment voulez-vous que ils puissent être intéressés par la lecture jusqu'à être capitale mondiale du livre. Ben, 6 ans après, peut-être un peu moins, le pari a été tenu, Conakry a été élu capitale mondiale du livre, et on voit comment est-ce que les jeunes, en particulier, mais au-delà, se sont intéressés davantage au livre, à la lecture. Le livre que j'ai consacré à la jeunesse africaine qui s'appelle « Afrique fête de sa jeunesse », je l'ai dédié à 2 jeunes Guinéens, Fodé et Yagin, que l'on avait trouvé mort en 1999 dans le train d'atterrissage du vol de la Sabena. Et ils fuyaient la misère de Conakry pour aller chercher un mieux vivre du côté de Bruxelles. Et moi, je voudrais que nous puissions aider cette jeunesse-là à accepter de rester ici à Conakry ou ailleurs dans un autre pays d'Afrique, pour ceux qui sont d'autres pays, qu'ils bénéficient des conditions matérielles, humaines, chaleureuses, d'amour, tout ce qu'on veut, qui puissent les aider à s'épanouir totalement, complètement, à travers le livre et à travers la lecture. Voilà.
Alors, Bintan, vous êtes très engagé à travers la Fondale sur le terrain, aux côtés des femmes, aux côtés des enfants aussi. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour essayer d'intéresser davantage encore les plus jeunes au livre et à la lecture? Parce que un livre, il ne faut pas se le cacher, un livre, ça peut faire peur.
Oui, à travers ma fondation, nous avons mis en place un point lecture avant même l'arrivée de Conakry Capitale Mondiale du Livre, et nous remercions le projet Capitale Mondiale du Livre parce que nous avons pu élargir et agrandir un conteneur que nous avons découpé, conteneur de port, nous avons découpé, nous avons mis des étagères pour encourager les enfants, pas les enfants de ma fondation seulement, mais les enfants du quartier à venir lire. Et puis comme nous sommes des volontaires, après le travail nous venons le soir aider ces enfants à faire leurs devoirs, nous profitons, pas seulement nous les volontaires, mais il y a des personnalités, des diplomates, des écrivains ou bien même des gens qu'on appelle des grands frères et des grandes sœurs pour venir lire aux enfants. Et
ça commence par le conte, ça commence par l'apprentissage du plaisir de la lecture, le plaisir d'entendre des histoires.
Des plaisirs. Et c'est ce plaisir-là que nous aimons voir avec ces enfants. On continue, je n'aime pas quand on dit les Guinéens n'aiment pas lire, les jeunes n'aiment pas lire. Mais qu'est-ce qu'on a mis en place pour que ces jeunes-là lisent? C'est grâce à ce projet qu'on a créé Capitale Mondiale du Livre, on a commencé à mettre les points de lecture. Et c'est ce projet-là qui fait le travail de ceux qui doivent mettre ces points de lecture. Normalement, chaque ville doit avoir une bibliothèque. Ça doit faire partie de leur projet. Donc s'ils disent qu'on n'aime pas lire, donnez-nous les bibliothèques, donnez-nous les livres, vous verrez si nous ne les lisons pas.
Il y a clairement un avant et un après 2010. 17, Isabelle Dapiedade.
Ah, moi, je pense effectivement qu'il y a un avant et un après 2017. Je pense que avant 2017, les gens parlaient beaucoup, étaient certainement persuadés d'un certain nombre de choses, mais n'imaginaient pas derrière tout ça qu'il y avait une jeunesse, des adultes, un peuple, une dynamique, des envies, du désir et la volonté affirmée de pouvoir pousser une porte invisible, mais franchir un socle, passer un cap et se donner la possibilité aujourd'hui d'avoir accès à l'éducation, à la culture, aux livres, pour pouvoir être à la fois en Guinée, à la fois ailleurs et partager avec le monde entier la culture guinéenne et la culture des autres.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un frein quand même justement à ce rêve? C'est l'analphabétisme. Est-ce que ça ne risque pas aujourd'hui de constituer justement une porte plutôt fermée par rapport au rêve que vous venez de décrire?
Alors, on peut effectivement poser ça comme un frein, mais on peut aussi à un moment problématiser la situation, tenter de trouver des explications, et à partir de ces explications, mettre en place une organisation, faire jaillir des compétences, parce que la Guinée est pleine de compétences, et se donner les moyens et la possibilité d'arrêter de parler de freins, mais se dire aujourd'hui qu'il y a un point de départ, et que ce point de départ n'est que le début d'une belle aventure qui va être éducation et qui va concerner le plus grand nombre.
Mais alors justement, le fond du problème, ça reste quand même l'école. Il y a eu beaucoup de polémiques, hein, sans Sika Badiakité en Guinée depuis plusieurs mois sur la qualité de l'enseignement ici en Guinée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que on est sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire? Est-ce que la prise de conscience déjà est là?
Bien sûr. On s'est bien marré à la clôture de Conakry Capitale Mondiale du Livre lorsque le président faisait référence à une dictée, à un concours qu'ils avaient organisé. Ça, c'était pour revenir à l'éducation, à la qualité de l'enseignement. Nous sommes tous conscients qu'il y a des problèmes. il faut les former. Il faut avoir le courage de permettre à ses enfants d'avoir une éducation de qualité.
Aujourd'hui, c'est le rôle de l'État.
C'est le rôle de l'État. Aujourd'hui, le budget consacré à l'État n'est pas suffisant pour l'éducation et dans la culture, pour permettre à ces jeunes de s'épanouir, de réussir, d'être des citoyens de qualité. Et pour cela, les écrivains guinéens, les professionnels du livre guinéen font des réflexions, proposent à l'État et poussent vers ça. C'est pourquoi vous voyez le slogan « La Guinée de demain s'invente ici ». Ça fait 11 ans que nous sommes en train de parler de cela parce que nous allons dans ce sens. Chaque fois que nous constatons quelque chose, on veut résoudre. On ne s'arrête pas au constat, on propose des solutions et on pousse pour aller.
Et comment Bintahan, une fondation comme la Fombal, se positionne justement par rapport à ce rôle de l'État? Est-ce qu'elle se positionne en complément dans les campagnes d'alphabétisation, parce que vous êtes aussi présente sur le terrain?
Oui, et des fois nous jouons le rôle de l'État aussi. Nous occupons des enfants parce que nous donnons l'importance à l'éducation de base. Quand on voit les lacunes dans les lycées, dans les universités, c'est parce que cette éducation de base n'a pas été privilégiée. Et tout récemment, Madame la ministre de l'Action sociale est passée à la Fondation à notre 10e anniversaire. Elle a effectivement dit, vous êtes en train de faire ce que l'État aurait dû faire. Parce que en ces 5 dernières années déjà, on a eu à former et à travailler avec plus de 2000 enfants. Et ça, normalement, c'est le rôle de l'État. Et nous devons accompagner l'État. Mais nous sommes en train de faire le premier rôle, qui est ce soutien scolaire gratuit que nous faisons aux enfants, ces cours à l'informatique, accès à ces enfants défavorisés. Et je pense que l'État en a beaucoup aussi. Ce n'est pas l'État seulement, c'est vous et nous, c'est tout le monde. Si nous, depuis des années, nous sommes partis, nous sommes sortis, nous sommes rentrés pour pouvoir travailler ici, c'est parce que nous croyons. Nous croyons, nous sommes aussi engagés à pouvoir changer les choses. Et le fait qu'on dit ça s'invente ici, ça continue jusqu'à ce que ça s'invente et que ça devienne pays émergent. On ne va pas lâcher.
N'est-ce pas les jeunes?
Alors, je parle sous votre contrôle, Bintahan. Vous êtes vous-même écrivaine. Vous avez écrit des livres pour enfants, pour parler notamment de l'hygiène, par exemple, pour parler de l'importance de l'éducation, pour parler aussi, parce que c'est aussi l'un des grands combats de votre fondation, du respect dû à la femme. Vous travaillez aussi beaucoup, je crois, sur les mutilations génitales féminines. Et c'est vrai que la défense des femmes et l'alphabétisation, ce sont deux pieds qui doivent marcher ensemble, d'un même pas, puisque c'est vraiment les deux piliers de votre action.
Oui, je pense que les femmes font un travail admirable. Et actuellement, c'est les femmes qui constituent le pilier de notre société et des chefs de famille, vu le taux de chômage très élevé. Donc, c'est les femmes qui ont bien besoin de toute la famille. Mais il y a ce frein. Pas le manque d'éducation en général, mais juste l'accès à l'éducation classique.
Et donc l'analphabétisme touche davantage les femmes que les hommes?
Ça touche davantage les femmes. Et ici, le problème commence déjà par l'accès à l'école par cette jeune fille. Si on n'autorise pas les jeunes filles à aller à l'école, et c'est sûr, on aura beaucoup de femmes qui seront analphabètes à l'âge adulte. Donc tout commence pour cela. Je donne l'importance à l'éducation de base. Il faut que les filles, qu'on accepte d'envoyer les filles à l'école pour qu'on puisse avoir le taux d'alphabète au niveau des femmes très élevé. Mais tout commence par le bas âge. Et je sais que c'est ça surtout ce qui constitue un grand frein pour les femmes. Et je mise sur cette éducation. Nous organisons aussi des cours d'alphabétisation pour ces femmes, des fois en langue nationale, pour qu'elles puissent comprendre déjà le sujet. Et on fait les campagnes de sensibilisation aussi en langue, parce que si elles comprennent, des fois, elles n'ont pas besoin aussi du français pour pouvoir expliquer le problème ou pouvoir trouver des solutions au problème, mais le français les permet d'accéder aussi à la plus grande connaissance.
Sensi Kabadiakite, apprendre à lire aux enfants, que ce soit les petites filles ou les petits garçons, c'est aussi une forme de mission pour l'éditeur que vous êtes?
Ah, bien sûr, c'est une mission. Le rôle d'un éditeur, c'est vraiment mettre des livres à la disposition de la population. On reçoit des manuscrits, on les lit, si on les accepte, on édite, on diffuse pour permettre aux citoyens d'avoir accès. C'est notre mission.
Les livres scolaires font aussi partie de votre catalogue?
À partir de 2019, là, nous nous investissons. C'est pourquoi, dans les 72 heures du livre 2019, nous avons fait un partenariat stratégique avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour vraiment apprendre aux professionnels du livre guinéen, aux auteurs, comment élaborer le manuel scolaire, parce qu'aujourd'hui, tout se fait ailleurs. Mais nous voulons désormais que des auteurs guinéens commencent et que des éditeurs guinéens terminent, que le livre scolaire guinéen soit fait en Guinée, qu'on crée une véritable industrie pour permettre à ces jeunes d'avoir accès à des livres à des coûts raisonnables, parce que tout sera fait ici. On sera vraiment en possession de tout ce qu'il faut pour vraiment distribuer et rendre le livre accessible.
Alors, j'ai lu que vous aviez organisé 5 éditions des Petits Champions de la Lecture. De quoi s'agit-il ?
Magnifique. Le club littéraire du Centre culturel franco-guinéen est venu nous proposer ce magnifique projet avec des enfants, parce que comme Binta Anne a dit, il faut commencer dès le bas âge. Si les enfants commencent à lire, s'ils naissent dans un environnement où il y a le livre, ils apprennent à lire, ça devient extraordinaire. Donc nous allons dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles pour faire cette compétition, et la finale c'est le 25, où vous verrez des jeunes, des enfants qui lisent excellemment bien parce qu'ils ont la passion. Et nous sommes en train d'inverser les tendances, parce qu'avant, quand vous alliez dans les maisons, dans les salons, vous ne trouvez que des assiettes et des fourchettes. Aujourd'hui, les livres rentrent. Et quand un enfant grandit dans ce sens-là, il peut lire, il peut évoluer, il peut grandir.
Bintan, vous avez écrit, je le disais, pour les enfants. Vous êtes aussi l'auteur de romans pour les plus grands. Je pense par exemple à votre roman Le mariage par colis, hein, qui parle du mariage précoce, du mariage forcé, du mariage sans amour. Une nouvelle fois, la dimension sociale, hein, que vous adressiez aux plus jeunes ou aux adultes est vraiment très très présente. C'est une dimension majeure de votre écriture. Pour vous, le livre, c'est pas seulement un objet littéraire, c'est aussi une arme, un objet de combat.
Oui, Mon écriture s'oriente surtout vers le social. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais avant, si c'est écrire avant ou être activiste avant, mais je pense que ça se confond. Mon premier ouvrage déjà, c'était « Awa la petite mangeante » sur l'éducation de la jeune fille. Et « Le mariage par colis », c'est sur le mariage précoce. Et c'est pour qu'on faire comprendre aux parents aussi, les mariages arrangés, les mariages forcés, ce n'est pas seulement les filles qui sont victimes, mais les garçons sont victimes aussi. Donc ça touche.
Il y a une forme de renversement effectivement, oui, dans le livre, qui peut surprendre un lecteur non averti.
Effectivement, parce qu'on a toujours l'impression que c'est la femme qui subit beaucoup des facteurs de la société, des facteurs traditionnels. Non, les garçons aussi subissent. Donc c'est pour cela qu'on a voulu toucher cet aspect-là. Et en ce qui concerne la lutte contre les mutilations génitales féminine et tous les combats et tous les ces différentes pratiques que nous continuons encore d'utiliser en Guinée, et pas seulement en Guinée mais l'Afrique subsaharienne, et on doit les dénoncer, mais trouver aussi une solution alternative aussi pour pouvoir remplacer, parce que c'est une question de tradition, ce qui veut dire c'est changement de mentalité, et qui dit changement de mentalité dit un travail à long haleine, un travail à long terme.
Mais alors justement, Jean-Célestin et Jean-Guy, est-ce que le livre est réellement un bon vecteur d'éducation, un bon vecteur de valeur dans ce genre de combats sociétaux parfois sont liés à des choses extrêmement profondes dans la culture d'un peuple?
Le livre est un vecteur pour beaucoup de choses, en fait. Moi, par exemple, quand j'écris, mon écriture naît de l'indignation d'abord. Je suis indigné devant une situation, situation des jeunes, situation concernant l'environnement, situation de ce que les États, les gouvernants ou les gouvernements ne prennent pas assez en compte l'importance de la culture, d'une manière générale, pour l'épanouissement et le développement de l'individu, mais des sociétés. Et quand tout à l'heure, Sansi Kaba disait que le budget consacré à la culture en Guinée est insignifiant, mais c'est pareil dans nombre de pays d'Afrique subsaharienne, j'allais ajouter des pays francophones. Qu'est-ce qui fait qu'un pays francophone ne peut pas avoir le même budget qu'un pays anglophone, par exemple? Les anglophones, ils ont mis beaucoup plus de moyens.
C'est-à-dire que pour vous, le livre et la culture, d'une façon générale, doivent constituer des priorités, au même titre que les infrastructures, l'adduction d'eau, l'agriculture, le développement économique du pays.
Mais on ne peut pas demander à un peuple de se développer quand on ne lui donne pas les moyens de se développer. Et le moyen fondamental, prioritaire, à mon sens, c'est l'éducation, c'est la lecture, c'est la culture.
Koyida Wokoala, l'un des tubes du chanteur guinéen Sekouba Fatagou Kouyaté dans VMDN sur RFI. C'est la première de nos trois émissions spéciales enregistrées ici au Centre culturel franco-guinéen de Conakry à l'occasion des 72 heures du livre. Avec nous, Sansi Kaba Diakité, directeur des éditions Lamat en Guinée, qui en est le directeur, l'écrivaine et fondatrice de la fondation Fombal Binta Anne, le journaliste, écrivain et photographe voyageuse, chercheuse Isabelle Dapiedade, et puis Jean-Célestin Edjangé, qui a co-dirigé avec elle le livre Conakry, cité du livre paru chez l'Armatan Guinée. Petit retour sur cette chanson qu'on vient d'entendre, Bintan, parce que vous en avez entendu les premières notes et tout de suite vous avez réagi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
La chanson dit tout ce qu'on voit, c'est Dieu. C'est le fatalisme dont on parle tout le temps et on ne veut pas que les jeunes arrivent à ce sentiment où ils baissent les bras pour dire c'est Dieu, tout ce qui m'arrive, c'est Dieu. Bien sûr, on est croyant, beaucoup de choses qui nous arrivent, la plupart du temps, on dit c'est Dieu. Mais nous pouvons aller au-delà, nous pouvons faire. On ne veut pas que les jeunes se découragent. Sansi Kaba a mis une place, une grande dynamique qui fait partie de ce qui nous a encouragés à rentrer. Et il ne faut pas qu'on le pousse lui aussi à se décourager. Lui aussi va s'asseoir et dire si qu'on a créé capitale africaine du livre, peut-être c'est Dieu. Non. Si on travaille très dur, et c'est sûr, si on est accompagné, ça ne sera plus que Dieu. Dieu fera que ça se réalise. Mais on ne va pas rester bras ballants et on dit, on attend que Dieu réalise nos rêves.
Alors, et où trouve-t-on ce courage, Sansi Kaba Diakité? On peut le trouver dans les livres? Justement, le courage de se battre pour briser le fatalisme que dénonçait à l'instant Bintan?
Bien sûr. Le livre permet de s'épanouir, d'avoir du courage, de comprendre ce que les autres on réussit d'apprendre et de se rassurer. Le livre nous permet vraiment de se responsabiliser et d'aller de l'avant. C'est ce qui est important. Parce que dans le livre, les gens le disent, hein, c'est un moment de rencontre. J'aime bien un de nos invités qui était venu ici, Henri Lopez, qui a une expression autour du livre extraordinaire. Il dit que le livre est amour. Lorsqu'on a le livre, c'est comme faire de l'amour, c'est intime. Et le livre permet vraiment de regarder beaucoup de choses et de se rassurer.
Et peut-être aussi de regarder les choses de haut, comme vous l'avez écrit Isabelle Dapiedade dans ce poème intitulé « En vol ».
Ivre de livre, correspondance du sens, pensée de l'unité, source de pluralité. Conakry, la capitale, signe ton annal. Écris ton histoire à l'encre noire, preuve de l'épreuve, sueur de l'acteur. Point de lecture, lieu de futur. Enfant curieux, investis le lieu. Conakry, la capitale, signe ton annal. Défi relevé, structure achevée. Calme ton impatience, déclenche ton expérience. Année de lumière, tu peux être fier. Rythme permanent, événement. Aujourd'hui et demain, main dans la main, écris ton destin. Savoure la clôture, marque l'aventure. Glisse ton marque-page, poursuis ton voyage.
Jean Célestin et Jean Gay, puisque vous êtes liés à Isabelle Dapiedade jusque dans les fils de vos micros, hein, dans ce studio installé au Centre culturel franco-guinéen, quelles sont les raisons d'espérer, les raisons de croire en cet envol, en ce destin à écrire pour la Guinée?
Alors, vous l'avez pas dit, Jean-François, moi je suis Camerounais, donc je suis pas guinéen. On peut pas me taxer de faire du pro-guinéen. Je suis Camerounais, je suis africain, et la Guinée représente beaucoup de choses pour moi. Je pars de là pour répondre ensuite à votre question. Quand j'étais plus jeune, j'ai découvert le pays à travers le nom de Sékou Touré au général de Gaulle. J'étais pas né, mais quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé à comprendre. Et j'ai découvert également que l'un des opposants politiques qu'il y avait au Cameroun à cette époque-là, dans les années 60, Roland Félix Moumi, est enterré ici à Conakry, dans un cimetière du quartier Cameroun. Et quand je suis arrivé pour la première fois à Conakry, je n'ai eu de cesse que de retrouver ces traces à Roland Félix Moumier. J'ai retrouvé la tombe, le cimetière, et je ne peux pas comprendre que plus de 50 ans après sa mort, ses restes ne soient pas rapatriés au Cameroun pour que sa famille puisse au moins se recueillir, parce que tout le monde n'a pas le moyen de partir de Douala, d'où je suis né et où était né Roland Félix Moumier, pour arriver à Conakry. Donc pour dire quoi? Pour dire que le livre m'a permis ça aussi, de retrouver les traces de Roland Félix Moumier. Le livre donne du courage, il donne de l'imagination, il permet aussi, sinon de se rassurer, mais aussi de s'indigner, parce qu'on lit, on découvre des choses. Et cette indignation peut être une source supplémentaire d'énergie qui va permettre justement d'aller encore plus loin, au-delà même de ce à quoi on pensait, pour pouvoir réaliser un rêve.
On parle beaucoup de Conakry depuis le début de cette émission, sans si Kabadia quitter, mais réduire la Guinée à Conakry, c'est peut-être un petit peu simple, hein, c'est peut-être un peu excessif. Est-ce que le tableau de la lecture, de cette passion que l'on décrit depuis le début de cette émission, on peut le transposer à l'ensemble du pays?
Ben écoutez, nous vivons des moments difficiles de notre histoire. Vous connaissez l'histoire surprenante de la Guinée. Après le nom, tout ce qui s'est passé, le pays a été fermé, ensuite les militaires, ensuite la démocratie, beaucoup de violences politiques, beaucoup de choses. Mais le livre peut guérir tout ça. Nous, c'est ce que nous disons. À travers le livre, on peut vraiment repartir. Parce que nous connaissons les mots, nous connaissons les difficultés. Il faut les changer.
Mais est-ce qu'elles sont les mêmes, ces difficultés, à Conakry, dans la capitale, et dans le reste du pays, dans les différentes régions de Guinée?
Ah, bien sûr. Il n'y a pas d'électricité à Conakry, il n'y a pas d'électricité dans les autres villes. Il n'y a pas d'eau à Conakry, il n'y a pas d'eau dans les autres villes. Mais à travers le livre, à travers ce qu'on va faire, nous aurons bientôt l'eau. Avec Soapiti Kaleta, les choses vont se faire. Et quand on a la lumière, on peut bien étudier, on peut éduquer les jeunes. Je pense qu'il y a des vrais projets, il y a des vrais chantiers actuellement lancés dans le pays. Ça doit être source d'espoir. Nous disons qu'en Guinée, le train a pris départ, il faut plus reculer, il faut aller de l'avant. Et c'est pourquoi l'éducation est fondamentale, c'est pourquoi la culture est fondamentale. Pour moi, la culture doit être au même niveau que l'agriculture, que la santé, que l'armée, voire même plus. Permettre à des jeunes d'avoir des maisons de jeunes de qualité, d'avoir des médiathèques, d'avoir des espaces où ils peuvent rêver, construire des choses, c'est fondamental. Et c'est ce qui permettra de sauver le pays. C'est ce qui permettra qu'on ait une santé de qualité, qu'on ait des infrastructures de qualité, parce que les jeunes seront bien formés, ils seront bien cadrés, ils sauront qu'il ne faut pas mentir, ils sauront qu'il faut vraiment travailler de façon exceptionnelle. le livre permet ça.
Alors écrire, c'est bien, publier, c'est encore mieux. Là, maintenant, Guinée, que vous dirigez, Sensi Kabadiakité, a publié entre 400 et 500 titres hein, dans votre dernier catalogue. Mais en Guinée, quand on regarde les chiffres, il ne se publie que 15 livres par an. C'est pas beaucoup.
Oui, c'est pas beaucoup.
C'est un problème d'argent.
Nous sommes en train d'inverser ça. Il y a un problème, le pouvoir d'achat est faible. Nous reconnaissons le revenu, le salaire. Mais vous savez, lorsqu'on est bien formé, on est bien éduqué, on ne va pas prendre le SMIC. C'est ce qu'il faut. Il faut changer ça. Et c'est pourquoi nous demandons aux jeunes Guinéens de bien travailler, de bien étudier. Parce que si vous avez les compétences nécessaires, on ne peut pas vous payer avec le SMIC. On va vous payer plus. Vous pourrez avoir une famille de qualité. Vous pouvez envoyer vos enfants à l'école. Vous pouvez réaliser vos rêves. Et le livre permet ça. La première édition des 72 heures du livre, c'était le thème. Livre Avenir de la Guinée. Ça revient encore. Et nous insistons que le livre fait partir véritablement de l'avenir de ce pays.
Mais Jean-Célestin et Djangé, quand on se balade dans les rues de Conakry ou dans les rues des autres villes de Guinée, est-ce que c'est facile de trouver des livres? Est-ce que c'est facile de trouver des points de lecture, de trouver des médiathèques, des bibliothèques, voire des librairies?
Vous m'aurez posé la question il y a 10 ans, je vous aurais dit qu'effectivement, ce n'est pas facile du tout. Il y avait très peu des maisons d'édition, et très peu de points de lecture. Mais depuis 3-4 ans, et spécifiquement depuis 2017, il y a, je crois, 25 points de lecture qui ont été construits, qui ont été ouverts, pour permettre aux jeunes guinéens d'aller lire, d'aller à la rencontre d'un livre, d'aller se familiariser avec le livre. Et nous avons annoncé ce matin, il y a 40 autres qui vont être construits, je crois au courant de l'année 2019. Je passe sous le couvert de Sensi Kabadiakité. Je pense que c'est avec l'UNICEF que ce projet va pas prendre place. Donc ça veut dire que les choses sont en train de changer. Il y a davantage de maisons d'édition aujourd'hui. Je crois qu'il y en a au moins 5 ou 6. Il y en a 8. Alors donc, il y a 10-15 ans, on pouvait pas en dire autant. Il y a donc une vraie évolution. Alors, maintenant, est-ce que Conakry est représentative, la ville de Conakry, du reste du pays? Je mettrai un petit bémol.
Oui.
Quand bien même il y a des villes comme Kindia, qui sont des villes très dynamiques, en termes de lecture aussi et de culture en général, il faudrait faire beaucoup mieux encore pour un certain nombre de villes en dehors de la capitale.
Mais à quel livre faut-il garantir un accès facile, Isabelle Dapieda, de livres écrits en français, le français qui est la langue officielle de Guinée, hein, faut le rappeler, mais le pays compte quand même, je crois, plus de 24 langues nationales, hein, si j'ai bien compté. C'est quand même un pays d'une très très grande diversité linguistique, et pas seulement linguistique, vraiment une grande diversité extraordinaire. Est-ce que l'avenir du livre, il n'est pas davantage dans ces différentes langues nationales, en malinké, en soussou, en poulard, etc., plus que finalement dans le livre en français, en plus parfois venu de Paris, venu de France, et pas forcément imprimé sur place?
Alors votre question, elle est éminemment intéressante.
Merci.
Dans la mesure où pour la Guinée aujourd'hui se pose la question de à la fois vivre en Guinée et les liens à créer et à recréer avec l'extérieur. Mais les liens à créer avec l'extérieur, ce sont aussi des liens qui doivent prendre en compte la culture et la richesse de la Guinée. Alors, moi, je pense à la transversalité, je crois en la transversalité, et il est intéressant aussi à un moment de se dire, la Guinée s'appuie sur le français aussi pour partager un certain nombre de choses, mais aussi de l'extérieur, que des pays africains ou des pays européens ou du monde puissent s'intéresser et se dire à un moment pourquoi ne pas me mettre. Et je sais aussi qu'aujourd'hui ça commence à exister au soussou, au malinké, parce que lorsqu'on est dans un processus comme celui de la Guinée où on relance quelque chose vers l'extérieur et vers l'ouverture, moi je pense qu'il faut faire exister les allers-retours.
Oui, donc ce serait faux, ce serait une erreur, Bintan, d'opposer les deux, parce qu'on parlait d'analphabétisme tout à l'heure. Beaucoup de Guinéens qui ne comprennent pas et qui ne peuvent pas lire le français sont pas du tout analphabètes dans leur langue maternelle, donc pourraient le faire effectivement. À travers les livres publiés dans ces langues-là.
Oui, je pense que c'est une complémentarité. On peut ne pas lire le français, mais comprendre ce que le livre en français veut dire. Le livre permet de comprendre aussi, pas seulement de lire. Et par exemple, avec les associations de femmes avec lesquelles nous travaillons, elles savent lire ou comprendre dans leur langue maternelle. Et maintenant, c'est à nous de leur faire comprendre ce qui est écrit en français pour qu'ils puissent appliquer ça. Genre, vaccinez vos enfants, envoyez vos enfants à l'école et enregistrez les naissances dans les centres. Donc, le livre permet tout ça. Et donc, je pense que ça ne sert à rien d'opposer les deux, ça se complète. Ça aussi, ça fait partie de notre culture, de valoriser, de vulgariser les langues nationales.
Dernière question pour vous, Sansi Kabediakité. Je voudrais qu'on revienne un petit instant sur la question du prix. Est-ce que l'on a les moyens aujourd'hui? Est-ce que les éditeurs, est-ce que les libraires aussi ont les reins suffisamment solides pour vendre des livres moins chers? Et est-ce que l'une des solutions, ce ne serait pas de développer le livre électronique? Ou pas du tout? Qu'en pensez-vous en tant qu'éditeur?
Mais écoutez, moi je dis toujours, si on veut que son enfant réussisse, on veut l'avenir de son enfant, on doit mettre le prix qu'il faut.
Mais certains n'ont pas forcément le choix.
Je
parle des familles.
J'insiste, les familles achètent des téléphones portables, des chaussures, des choses pour des enfants plus chères que les livres. Mais les éditeurs guinéens, et voire même les éditeurs africains aujourd'hui, acceptent de faire des remises extraordinaires. Nous, ça nous fait 13 ans d'existence. Nous mettons le livre à moitié prix, du prix à l'étranger. Et dans des fêtes comme les 72 heures, nous sommes capables d'aller jusqu'à 75% de remise pour permettre aux gens d'acheter. Tout ça, c'est pour les encourager.
Et le livre électronique, alors, pour répondre à la demande de ceux qui ont préféré acheter un téléphone portable plutôt qu'un livre papier?
Ben écoutez, nous essayons de leur ouvrir des choses exceptionnelles comme Armatech, comme CultureTech. Mais vous savez, lire avec un smartphone, avec un ordinateur, c'est vraiment encore difficile. Si votre téléphone n'est pas chargé, si vous n'avez pas de connexion Internet, c'est encore difficile. Moi, je dis toujours, le livre papier et le livre électronique se complètent. Ceux qui ont de l'argent, parce qu'il y a des bibliothèques électroniques gratuites, peuvent aller. Et d'ailleurs, nous encourageons beaucoup les jeunes en leur remettant des cartes avec des codes d'accès pour aller naviguer, pour aller vers les livres électroniques. Nous devons les encourager parce que nous sommes dans le 21e siècle. Ils ont des smartphones, beaucoup les encourager. Mais nous leur disons, vous pouvez aller aussi dans les bibliothèques, dans les médiathèques, ailleurs, dans vos villes, dans vos villages. Et notre véritable projet, c'est vraiment installer des points de lecture partout, des bibliothèques partout. Nous sommes en train d'encourager les politiques, les maires, les ministres, les opérateurs économiques à faire la même chose que l'UNICEF vient de prendre, de faire. 40 bibliothèques dans 40 communes de convergence en Guinée, c'est extraordinaire. Mais d'autres institutions peuvent faire la même chose, d'autres structures privées peuvent faire la même chose, parce que le livre, c'est la solution à nos problèmes.
Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus dans Vous m'en direz des nouvelles, Bintan, Sansi Kabediakité, Isabelle Dapiedade et Jean-Célestin Edjangé. Merci également au Centre culturel franco-guinéen pour son accueil. Merci au public. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et supportés. Dans un instant, retour à Paris pour l'info. On se retrouve demain, toujours ici à Conakry, pour les 72 heures du livre, avec les romanciers Juliana Diallo, Ousmane Diarra, Mamadi Koulibaly et le dessinateur Oscar. Et vous m'en direz des nouvelles.